Bonjour, c'est PPC. Dans chaque épisode d'Influence, des influenceurs, des patrons de marque ou des dirigeants d'agences de communication nous ouvrent la porte pour mieux comprendre les coulisses de l'influence.
Influenceur aujourd'hui, c'est devenir un métier. C'est des gens qui souhaitent faire de l'argent par rapport à ça.
Mathieu Flegg, CISC.
Un métier qui reste aussi précaire. On voit régulièrement des vidéos, par exemple sur YouTube, avec des gens qui disent « bah en fait, ça paye pas tant que ça, et puis pour la retraite, c'est compliqué, et pour plein de choses, c'est compliqué. »
Je connais Mathieu Flegg depuis 2008. Mathieu est un homme féru de digital, un observateur attentif des tendances et des usages. Il est le cofondateur de CISC, un cabinet de conseil et formation en accélération digitale. Rencontre avec un influenceur français reconnu, notamment en business to business.
Mathieu Flegg, 37 ans, cofondateur d'une entreprise qui s'appelle CISC, et j'ai aussi une étiquette d'influenceur B2B.
Quelle est ta définition de l'influence?
Si on prend la définition stricto sensu de l'influence, c'est la capacité à faire acheter, faire penser des choses à d'autres personnes. Moi, ma définition plus personnelle, c'est comment est-ce qu'on peut réussir à partager une passion qui va emmener d'autres personnes avec nous.
Tu es tombé comment dans l'influence?
Alors, je sais pas si je suis vraiment tombé dans l'influence. D'abord, il faut comprendre quand est-ce que je me suis connecté la première fois sur Internet. C'était il y a longtemps maintenant, en 1996. J'ai passé pas mal de temps sur des forums, notamment sur différents sites Internet, jusqu'à arriver en 2008 avec une envie très forte de me connecter, d'aller partager des choses avec d'autres personnes. Ça a commencé d'abord avec Twitter en 2008 et le lancement d'un blog en 2009. À cette époque-là, il y avait notamment ce qu'on appelait le classement Wikio. Je me suis intéressé et c'est d'ailleurs à cette époque que j'ai rencontré PPC, parce que PPC a aussi un blog. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
Tu t'es rendu compte comment et quand que tu devenais influenceur?
D'abord, la première fois que j'ai découvert ce qu'étaient des blogueurs, je dirais que ça devait être en 2006-2007. Je me rappelle notamment de quelqu'un qui s'appelait Romain Libaud, et je me suis dit, ouais, c'est incroyable, ils ont l'air de parler à des milliers de personnes, ils ont l'air d'être vraiment influents. Je me suis dit, mais j'arriverai jamais à ce niveau-là. J'ai quand même commencé à lancer mon blog, et pour lancer mon blog, je suis allé sur tous les sites internet qui expliquaient comment bien lancer son blog, et j'ai appliqué une par une la totalité des techniques qui m'étaient proposées en me disant, bah, peut-être que ça va fonctionner. J'avais d'ailleurs lancé un premier blog qui s'appelait L'avocat du diable, où je voulais défendre l'indéfendable. Sur ce blog, à l'époque, il y avait un descriptif qui s'appelait « Ce blog est écrit par un publicitaire geek, encore appelé PubliGeeker ». Et j'ai réutilisé ce mot qui s'appelle PubliGeeker pour faire un site qui s'appelle PubliGeeker.com, qui a été lancé donc réellement en avril 2009. Étonnamment, ça a fonctionné assez rapidement. À force d'écrire plein de sujets, notamment sur la partie technologie et sur la partie marketing, je me suis aperçu que quelqu'un, notamment à l'époque chez Rue89, commençait à reprendre mes articles, les partager sur le site internet, et de, on va dire, quelques centaines de visites à l'époque, je me retrouvais soudainement à avoir 3000 visites sur une journée. J'ai écrit un article qui était sur une fausse publicité Sprite à l'époque. Et cette personne de Rue89 m'avait contacté en disant « Oui, j'ai l'impression qu'il y a un sujet, j'aimerais beaucoup le reprendre vraiment en direct et remettre totalement l'article sur Rue89. » Ce qui a été fait, en une journée, le sujet s'est emballé. Je me suis retrouvé avec mon site internet et des vidéos que j'avais mises en ligne sur YouTube en home de Free, en home de Yahoo. L'article sur Rue89 a fait plus de 150 000 visites en une journée. D'une personne totalement inconnue, je me suis retrouvé à devoir gérer un buzz où j'étais au centre de ce buzz. C'est comme ça que j'ai commencé à comprendre un peu la mécanique d'influence. Ça m'a fait un peu stresser au début. J'ai notamment reçu un mail à l'époque via YouTube de Coca-Cola Company qui me disait « Merci de retirer la vidéo que vous avez mise en ligne ». Moi, j'étais quand même assez jeune et un peu inexpérimenté. Je me suis dit « Bon, Coca-Cola Company, peut-être que je vais retirer la vidéo ». Grâce notamment à toute cette visibilité que j'ai pu avoir à l'époque et sur le classement Wikio dont je parlais tout à l'heure, je me suis retrouvé du numéro 70 millième dans le classement marketing du classement Wikio à numéro 19. Soudainement, j'apparaissais dans le classement des gens qui intéressaient les agences, qui intéressaient les marques, et c'est comme ça que ça a commencé.
Quelles ont été tes premières relations avec les marques ?
Il faut d'abord comprendre qu'avant, moi, je bossais en agence de publicité et j'avais une volonté quand même de bosser dans ce qu'on appelait le numérique ou le digital à l'époque. Quand j'allais voir des gens en entretien, on me disait, en fait, sympa, mais t'as un CV de publicitaire. Donc, je me suis dit, comment est-ce que je peux réussir à avoir un CV qui n'est pas un CV de publicitaire, mais tout en restant dans mon agence actuelle? Et c'est comme ça que j'ai lancé le blog. Au bout de quelques temps, on va dire quelques mois, toutes les agences qui, à la base, me disaient non, mais t'as un CV de publicitaire, venaient me voir et commençaient à me proposer des informations sur des marques. Et c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. Moi, j'étais un blog plutôt de publicité et de ce qu'on appelait des geekeries de technologie, et les marques ont commencé à venir comme ça. Les premiers articles sponsorisés, même si j'en ai pas fait beaucoup, ont commencé à venir comme ça. Soudainement, j'étais devenu quelqu'un qui comptait dans l'écosystème, on va dire, des blogs.
Premier article sponsorisé, t'as touché combien?
Premier article sponsorisé, c'était pour Nike. C'était sur un sujet geek et j'ai touché 300€. Et c'était très cool parce que ce que j'avais dit à l'agence, c'est en fait j'aurais pu l'écrire totalement gratuitement cet article. Ça me fait plaisir que vous me payiez pour ça. voilà, c'était une bonne expérience.
Qu'est-ce que recherchent d'après toi les marques chez les influenceurs?
Alors, dans mon entreprise, Cisque, avec mon associé Frédéric Cavazza, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que les influenceurs sont devenus les nouvelles bannières. Faut comprendre que dans le système notamment d'achat et de visibilité, aujourd'hui, de plus en plus de gens utilisent ce qu'on appelle des adblockers, donc ils bloquent la publicité. Il y a aussi beaucoup de fraude sur la partie affichage publicitaire où quasiment 50% de l'achat publicitaire partait sur des robots, partait sur des choses qui en fait servaient pas directement la marque. Aujourd'hui, les marques cherchent à retrouver cette visibilité et cette visibilité, elle se retrouve via les influenceurs qui sont devenus multiples sur plein de plateformes. Donc il y a d'abord une partie de visibilité, mais elle cherche aussi sûrement à créer plus d'émotions et à rentrer dans des communautés qui sont devenues un peu plus compliquées à toucher. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive à recréer du lien, comment est-ce qu'on arrive à créer de la visibilité, même si on comprend qu'on peut cibler en partie parce qu'on comprend à peu près la communauté de l'influenceur, mais que ce sera jamais aussi ciblé que si c'était de l'achat média publicitaire traditionnel. Je pense pas qu'ils voient à long terme en fait hein, tous ces gens qui vont chercher à faire beaucoup de spots post-sponsorisés. Ils cherchent pas vraiment à construire une communauté et cherchent à construire un business. C'est sûrement ça qui les différencie de ce qu'ont pu être par exemple certains blogueurs à l'époque où on cherchait d'abord à raconter des choses à des personnes et potentiellement on faisait de l'argent avec. Aujourd'hui, on va plutôt chercher à recruter un maximum de personnes même si c'est des faux abonnés, avoir le plus d'engagement possible même si on doit l'acheter. C'est plutôt comment est-ce qu'on arrive à créer un nuage de fumée qui est assez gros pour que les gens ne voient pas assez à travers et se disent « oui, tiens, je vais mettre un billet sur eux ». Ça ne va avoir qu'un temps. Il y a des influenceurs qui vont rester sur le carreau. Mais il y en a encore beaucoup qui arrivent à, j'irais entre guillemets, à arnaquer les marques et des marques qui sont pas encore assez dans la compréhension de ce qu'est réellement aujourd'hui toute cette mécanique d'influence et de ce que sont les chiffres derrière les influenceurs.
Tu parlais de ce nuage de fumée. Est-ce que ça veut dire que les marques et leurs conseils font pas le boulot?
Je dirais pas que toutes les marques et tous les conseils ne font pas le boulot, mais si je prends l'exemple de certaines grandes agences médias, oui, elles sont dans le faux. Oui, elles ont pas forcément les outils. Quand j'ai commencé, par exemple, le social media il y a quelques années, hein, c'était en 2010-2011 au niveau professionnel. Aucune des marques avec lesquelles on travaillait et aucune des agences avec lesquelles on travaillait comprenait exactement ce qu'il y avait derrière. Aujourd'hui, chacun a un peu rattrapé son retard, mais en n'ayant pas vraiment une compréhension de la culture qu'il peut y avoir derrière, de la compréhension de ce que ça implique, entre guillemets, de bosser vraiment avec des influenceurs. Il y a encore ce côté, ok, à l'époque, on achetait de la télé en vrac, on achetait de l'affichage en vrac. Aujourd'hui, on peut encore parfois, chez certaines agences médias, acheter de l'influenceur en vrac, et c'est là où elles se trompent.
Est-ce que tout ça n'est pas lié, finalement, à une énorme erreur sur les bons indicateurs de mesure?
Il y a sûrement une erreur sur les indicateurs parce que aujourd'hui, par exemple, on va regarder un nombre d'abonnés. Pour certains comptes que je connais ou que j'ai pu observer, je sais que le nombre d'abonnés est faux. On va parfois baser ça sur l'engagement, mais en fait, l'engagement peut être aussi faux. Moi, j'aime le côté un peu qualitatif, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à percevoir que ce qui est fait est de qualité et pas juste du volume.
On parle de femmes et d'hommes sandwich, la collaboration avec un influenceur, toi qui en es un. Qu'est-ce que tu as déjà apprécié dans une collaboration avec une marque?
Moi, je travaille beaucoup à l'affect. Et si j'ai créé une relation, je vais avoir envie de leur faire plaisir et je vais avoir envie de travailler avec eux.
Qu'est-ce que c'est pour toi que l'impact positif?
Moi, le vrai impact positif que j'ai envie d'avoir, c'est à quel point est-ce que je fais découvrir des choses aux gens et à quel point est-ce que les gens prennent du plaisir à découvrir ce que je peux leur proposer.
Exemple concret?
Je ne considère pas, moi, que je suis un créateur. Je considère que je suis un excellent sélectionneur d'informations et un excellent, on va dire, mangeur de plein de petits sujets et que je vais passer énormément de temps à proposer le meilleur du meilleur de ce que j'ai pu voir des personnes.
L'influence en B2B, elle est très différente de l'influence en B2C ou non, c'est la même chose?
Les relations sont pas les mêmes entre la partie B2B et B2C. D'ailleurs, au début, quand j'ai lancé mon blog, je pense que j'étais plutôt vu comme un influenceur B2C parce que, à l'époque, il n'y avait pas d'influenceur Instagram, il n'y avait pas d'influenceur sur plein de réseaux. Être influent sur un blog et être influent sur Twitter, c'était être influent, point. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que moi, par exemple, je suis devenu, en tout cas, estampillé influenceur B2B? Parce que j'ai utilisé mes réseaux sociaux comme des réseaux professionnels, sur Twitter, sur LinkedIn et autres. Aujourd'hui, il y a un intérêt pour des entreprises de se dire « Ok, lui, il peut porter des messages qui vont être liés à de la stratégie digitale, il peut porter des messages sur la façon dont on est en train de se transformer, aussi parce que je le fais avec mes clients, et aussi parce que j'ai construit, entre guillemets, ma communauté par rapport à ça, et que je suis suivi par d'autres influenceurs, je suis suivi par des gens du métier que ça peut intéresser. »
Est-ce que tes activités entre guillemets, d'influenceurs ont un impact sur tes activités professionnelles, sur ton business?
J'ai l'impression, et ça fait déjà quelques années, que je fusionne le côté personnel et professionnel. C'est pas vraiment un mélange des genres, mais c'est plutôt, je suis profondément passionné par tous ces sujets. Je peux très bien avoir une étiquette CISC. Par exemple, je vais être invité par des boîtes comme Adobe, comme par Huawei. Aussi parce que je suis CISC et que potentiellement je peux parler à des clients de l'autre côté, mais aussi parce que je suis, entre guillemets, influenceur sur Twitter et sur LinkedIn. Tout ça se mixe et je trouve que c'est ça en fait la nouvelle façon de vivre sa vie professionnelle. C'est comment est-ce qu'on rassemble tout ça et qu'on en est heureux. Le fait d'avoir ma propre entreprise aujourd'hui, forcément, ça me facilite la capacité d'aller sortir plus facilement pour aller voir un événement. Au même titre que, bah, comme j'ai ma propre entreprise, je peux aussi travailler le soir si par exemple je suis sorti le matin pour aller voir une conférence. J'ai pu le faire aussi parfois dans mes entreprises précédentes, mais j'ai essayé de pas trop le faire non plus parce que ça peut choquer en une façon traditionnelle, entre guillemets, de voir le travail.
Dans une étude menée par Cision en 2018, on apprenait que très peu d'entreprises étaient capables d'évaluer combien rapporte un article de presse, un billet de blog ou un tweet sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu en penses ?
Alors moi, je me souviens qu'il y a une époque, j'ai travaillé avec Bouygues Télécom et on était payé pour faire des campagnes d'influence. Donc, on était payé un certain volume d'argent par mois pour faire des campagnes d'influence. Et ce que je leur avais proposé, c'était de faire une évaluation de ce que représentait chacune des retombées. Et j'avais fait un tableau en disant, un tweet tous les 10 000 personnes, par exemple, ça représente autant en équivalent retombée presse ou en équivalent média. La même chose sur les blogs. Et du coup, chaque mois, on leur disait, on vous a coûté autant. Et par rapport au tableau sur lequel on s'est mis d'accord, ça vous a rapporté autant. Et le but, c'était qu'on soit par exemple la x2 versus ce qu'eux nous avaient payé en disant, ça vous a rapporté X dizaines de milliers d'euros en termes de visibilité si on fait une équivalence média. Donc on est rentable par rapport à un éventuel ROI qu'on pourrait vous demander en interne.
Et ça, c'est femme et homme sandwich dans la façon de mesurer. Est-ce qu'on mesure comme ça aussi l'influence, la vraie ?
En fait, je pense que c'est un peu compliqué de mesurer totalement l'influence, mais au même titre que c'était compliqué à l'époque, par exemple, d'évaluer l'impact d'une campagne d'affichage ou d'une campagne télé. J'ai bossé dans la publicité pendant pas mal d'années, et quand il y avait une campagne comme ça, par exemple, je bossais pour une marque automobile, en fait, ils regardaient si les marques avaient augmenté ou pas, mais ils n'avaient pas une idée de l'impact direct de ce que ça pouvait représenter. Ils savaient quelque part que le fait d'investir, ça allait avoir un impact positif, mais ils n'avaient aucune certitude et ils n'avaient aucune idée de la relation de causalité entre les deux. Internet a beaucoup changé ça, notamment sur le fait qu'on puisse tout traquer. Après, c'est sûr que avec les influenceurs, ça peut être aussi compliqué. Déjà, influenceur, quelle réelle influence ? Est-ce que être influenceur, ça veut juste dire on fait un post et des gens ont vu et c'est bien ? Mais est-ce que ça les a réellement influencés ? Ça, c'est un discours, on va dire, c'est une question un peu plus philosophique par rapport à tout ça. Mesurer la réelle influence, j'ai pas l'impression aujourd'hui qu'on puisse le faire. Et du coup, c'est pour ça qu'on se rapproche beaucoup des chiffres, des nombres d'abonnés, de l'audience de manière générale et de l'engagement.
Quelle est la meilleure façon de jouer la carte de l'influence selon toi ?
La meilleure façon, je dirais, c'est sur la durée. On parlait tout à l'heure des influenceurs qui ont tendance à se construire peut-être un peu trop rapidement et qui cherchent surtout à faire du business. Je pense qu'il faut d'abord chercher à construire une communauté qui va être solide, avec des gens qui vont nous faire confiance. Et ensuite, assez naturellement, les marques ou en tout cas les partenariats vont venir parce qu'ils vont se dire « Ok, ça semble qualitatif ». Je pense aussi que les influenceurs, entre guillemets, qui veulent en faire un business, vont d'eux-mêmes aller voir les agences, vont d'eux-mêmes aller voir les marques en disant « Regardez, j'ai 50 000, 100 000, 200 000, 1 million d'abonnés, donnez-moi de l'argent, je vais faire votre publicité ». Historiquement, par exemple sur mon parcours, c'était pas moi qui allais voir les marques ou qui allais voir les agences. C'était les agences qui venaient me voir parce qu'ils m'avaient repéré, parce qu'ils sentaient que c'était intéressant. Parfois à tort, parfois à raison, parce que j'ai refusé aussi pas mal de partenariats qui m'ont été proposés sur des sujets qui étaient totalement déconnectés de ce que moi j'avais envie de faire en tout cas.
Mathieu, est-ce que tu as un exemple qui te vient en tête de ce qu'il ne faut pas faire ?
Je connais des personnes autour de moi qui aujourd'hui font de l'achat d'abonnés, font de l'achat d'engagement. C'est pas du tout une bonne stratégie. Quelque part, c'est une façon de nourrir son ego. En fait, faut pas se perdre dans l'ego. Je pense que c'est le principal truc, le principal conseil que je donnerais. À un moment donné, quand j'étais sur mon blog, j'étais un peu obsédé par les indicateurs, par le nombre de likes, par le nombre de partages, par le nombre de visites. J'ai commencé à sentir un peu cette volonté d'ego, cette montée d'ego. Et à un moment donné, plus les chiffres remonte et plus on peut se perdre dans ça. Donc bien garder la tête sur les épaules, pas accepter n'importe quel partenariat, n'importe quelle chose qui est proposé, parce que en fait on va vous proposer tout et n'importe quoi. Ce qu'il faut protéger, c'est sa communauté. Et si on commence à ne pas protéger sa communauté, c'est là où on se perd et c'est là où on commence à faire des erreurs.
Le plus gros bullshit autour de l'influence ?
toute cette volonté en ce moment de se dire oui, il faut plus passer par les macros, mais les micros, voire les picots influenceurs. En fait, il y a parfois certains gros influenceurs qui ont beaucoup d'engagement et qui sont très bien. Il va y avoir des micro influenceurs aussi qui sont très bien. A contrario, il peut y avoir des très gros influenceurs qui achètent par exemple des vues sur YouTube, qui vont totalement faker ce qu'ils font, qui font aussi des erreurs entre guillemets dans les partenariats qu'ils peuvent faire. Faut pas forcément s'intéresser à la taille et se faire des généralités. C'est un peu comme parler aujourd'hui des millennials. On se dit ok, oui, les millennials, c'est une même génération, ils sont tous de la même façon, ils se ressemblent tous. Non, c'est faux. Il faut d'abord s'intéresser aux individualités des influenceurs, à comment est-ce qu'ils se sont construits, à quel univers ils ont autour d'eux. Et là, on commence à avoir quelque chose d'intéressant plutôt que de ranger les gens dans des cases, parce que à la base, chacune de ces personnes ont voulu faire un micro-média parce que justement, ils trouvaient pas de case dans laquelle se mettre et ils ont fait leur propre case.
Est-ce que tu penses que les marques ou leurs agences ont encore du temps à passer sur ça?
C'est sûr que c'est tentant de faire les choses à la chaîne et entre guillemets d'industrialiser via des applications. Ça permet peut-être de faire un premier filtre, au moins pour se dire, tiens, si je passe par iPoditor par exemple, est-ce que ça a l'air fake? Si on veut faire quelque chose de qualitatif, il faut prendre du temps. Les marques n'ont pas forcément le temps de le faire, mais qu'elles se fassent accompagner, parce que derrière, c'est le temps entre guillemets qui est passé, c'est de l'argent qui est économisé. L'argent qui entre guillemets qui va être perdu, c'est un manque de ROI, c'est un manque d'impact, c'est payer un influenceur 50 000 euros alors qu'en fait ça ne vaut absolument pas du tout 50 000 euros et qu'on n'aurait jamais dû travailler avec lui. C'est faire moins d'erreurs entre guillemets et s'assurer du business pour la suite, parce que le cœur de tout ça, ça reste quand même faire de business. On passe pas par les influenceurs pour le plaisir de voir sa marque sur X ou Y compte Instagram. Si on est là pour faire de la vente, on est là pour faire en sorte que nos services soient connus, soient diffusés. Donc passez plus de temps, passez peut-être un peu plus de temps avec vos agences et donnez-leur plus de moyens et vous apercevrez que sur la durée, il y aura quelque chose qui sera plus intéressant.
Si tu avais une question à poser à un influenceur, tu aimerais lui demander quoi ?
Est-ce que tu es en burn-out ?
Mathieu, est-ce que tu es en burn-out ?
Moi, je ne suis pas en burn-out, mais je pense que j'ai pu l'être à un moment. Sur les premières années du blog, notamment, où j'ai écrit énormément, où je sortais énormément, il y a eu une époque où je recevais à peu près, je dirais, 5 paquets cadeaux par jour, où j'avais 3 soirées par soir, où j'écrivais 3 articles, où à chaque fois que j'arrivais dans une soirée qui était plus ou moins liée à des blogs ou à Twitter, j'avais beaucoup de mal à aller voir mes amis parce que beaucoup de gens m'arrêtaient. Ça peut paraître étonnant aujourd'hui parce que je pense que tout le monde a oublié ce qu'était mon blog. J'ai un peu perdu pied pendant, je pense, quelques mois. Jusqu'au jour où ma femme m'a dit écoute, on va réorganiser tout ça et on va d'abord se mettre d'accord sur les sorties, donc un nombre de sorties qu'on peut faire entre nous, et surtout on essaie de se rapprocher plutôt de ce qui est important, c'est-à-dire quand même aussi de la famille, toute la partie blog, toute la partie influence et du plaisir, mais ça peut pas être le seul plaisir qui existe dans le monde.
C'est quoi pour toi le futur de l'influence? Quel avenir pour les influenceurs?
C'est très compliqué de définir un peu le futur de l'influence parce qu'aujourd'hui il y a deux directions qui sont en train d'être prises. Si on regarde par exemple Instagram qui est en train de cacher les likes, c'est une façon entre de protéger les gens et de se dire ok, les likes c'est pas intéressant, en tout cas c'est pas important. Si on regarde une autre plateforme comme TikTok, TikTok dit ah, tu veux des milliers voire des centaines de milliers voire des millions de likes, et ben je vais te les donner. Je pense qu'il y a un grand écart qui se passe dans la tête des influenceurs entre ok, est-ce que je vais sur cette plateforme ou entre guillemets je suis rincé dans tous les sens sur des likes, ou est-ce que je suis sur une plateforme qui peut-être pour ma santé mentale est plus intéressante. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer et sûrement ça, on va se rapprocher aussi de ce qui se passe en Chine. En Chine on parle des key opinion leaders. Ces key opinion leaders par exemple font plus vraiment de posts sponsorisés, en tout cas par exemple ne vont pas chercher à faire des liens d'affiliation pour vendre des produits, mais créent plutôt des boutiques qui possèdent eux-mêmes sur lesquels ils vont vendre des produits des marques. C'est plus vraiment une logique de drive to web pour envoyer par exemple vers des sites de e-commerce, mais c'est l'influenceur qui a son propre site de e-commerce et sur lequel il veut vendre des sacs, sur lequel il veut vendre des parfums, ce genre de choses. La question c'est quand il y aura trop d'influenceurs, quand tout le monde sera devenu influenceur, comment on fait pour les choisir, comment est-ce qu'on fait surtout pour que tout le monde vive, et on repartira sûrement sur une meilleure définition de ce qu'est réellement un influenceur et de quels sont les impacts des influenceurs.
Donc si je te suis, finalement l'avenir pour les influenceurs, c'est de devenir une marque. Quelle est ta marque, Mathieu ?
Alors moi j'ai créé entre guillemets une marque, Publigeeker, qui est le mix de publicitaire et geek. Ça a été ma marque pendant très longtemps. C'est une marque que j'ai fini par un peu délaisser parce que je me suis un peu ennuyé de mon blog à un moment, aussi volontairement, parce que quand je suis arrivé par exemple en agence social media et j'étais un blogueur influent, beaucoup de marques venaient me voir en me disant « Ah, mais c'est génial, vous allez bloguer pour nous. » Et moi, je disais « Bah non, je suis directeur conseil, je suis pas votre blogueur attitré, donc non, je vais pas le faire. » Au fur et à mesure, il y avait de plus en plus de marques concurrentes qui arrivaient sur mon blog versus mes clients. Donc, je me suis dit « Ok, bah je vais réduire mon blog de plus en plus. » Donc, la marque Publicare, entre guillemets, a commencé un peu à s'étendre. Celle que j'ai vraiment gardée, c'est le nom de mon compte Twitter initialement qui s'appelait Mathieu Flex, qui est devenu maintenant mon Instagram. Et si je lance une chaîne YouTube, ça s'appellera aussi Mathieu Flex parce que je veux aussi construire là-dessus. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ma marque personnelle, qui est donc mon nom complet, Mathieu Flegg, avant 2011, elle n'existait pas du tout sur Internet. C'était une volonté de ma part, je bloguais avec un bandeau, je bloguais sous pseudo, personne ne savait qui j'étais, même dans mon agence de l'époque. À force de faire des événements ou par exemple être invité à des rendez-vous où les gens m'appelaient Monsieur Flex, ça m'a un peu embêté. Je me suis dit, ok, t'es en train de créer une sorte de Dr. Jekyll et Mr. Hyde avec Mathieu Flegg qui est pas du tout entre guillemets visible et Mathieu Flex qui est une sorte de star éphémère d'Internet. Donc j'ai rassemblé tout ça pour être plus en phase avec moi et pour éviter aussi le burn-out dont on parlait tout à l'heure.
Ton mot de la fin, ta punchline sur l'influence, toujours un exercice compliqué, très spontanément, ta punchline sur l'influence, ton mot de la fin.
Ça va sûrement être un peu dur, mais j'ai l'impression que les influenceurs sont devenus les nouvelles bannières.
Cet épisode vous a plu ? Vous avez envie d'aller plus loin pour mieux comprendre l'influence digitale ? Voici 4 choses toutes simples que vous pouvez faire. D'abord, vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Ensuite, partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux. C'est facile et c'est prévu dans votre application de podcast. Juste après, parlez-en autour de vous, auprès de personnes que vous appréciez, lors d'une discussion, mais aussi autour de la machine à café, autour d'un repas ou un apéro. Enfin, si vous êtes sur iTunes, laissez un chouette commentaire et 5 étoiles, oui 5 étoiles, pour encourager l'artiste. Merci par avance pour votre soutien. À très vite.